Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle et virtuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique qui, Covid oblige, se relaye à tour de rôle en studio et en ligne pour partager et vous offrir, chers amis auditeurs et internautes, quelques exemplaires de leur magazine. Alors aujourd'hui, la recherche, science et vie, ciel et espace et cerveau et psycho. Et c'est Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho qui est en direct en studio avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Et oui, ravie de vous avoir en face de moi, même masquée, pour nous interroger sur ce qui nous meut en ces temps de pandémie. Des bénéfices de l'esprit moutonnier, tiens donc, pour enlever par exemple nos hésitations face au vaccin. Il sera aussi question de projection, non pas dans le futur, mais dans le passé, au temps des dinosaures. Avec Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie qui nous rappellera comment trois crises majeures ont permis aux dinosaures de dominer le monde pendant 170 millions d'années. Tout de même. Avec Philippe Pageot de la Recherche, nous nous intéresserons aux réseaux neuronaux de la parentalité, comment le comportement altruiste a émergé dans le cerveau des animaux et des hommes, ou plutôt des femmes, pour élever leurs petits. Et notre tour d'horizon de la presse scientifique s'achèvera sur la Lune, carrément, avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, pour revisiter un cold case spatial, le calvaire des astronautes d'Apollo 14, ou tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut récupérer des échantillons lunaire. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse jusque chez vous ? Bienvenue. Bienvenue, chers amis auditeurs. Pour commencer, je ne résiste pas à partager avec vous une information qui m'a particulièrement réjouie sur le blog du journal Le Monde de Marie Slavisek, consacrée au mystère, écoutez bien, des crottes carrées, oui, des excréments en forme de cube, produits par les wombats, ces marsupiaux dodus des forêts montagneuses d'Australie, particulièrement craquantes, les bouilles des wombats, qui ressemblent en gros à de très grosses marmottes. Ce sont les seuls animaux sur Terre à produire des excréments de forme carrée, en forme de cube. Alors pourquoi et comment ? Des embryons de réponse viennent d'être apportés dans la revue scientifique Soft Matter, relayée par le Guardian. C'est Scott Carver, spécialiste australien de la faune sauvage, qui avec son équipe a découvert pourquoi et comment les changements d'épaisseur et les contractions rythmiques des muscles de l'intestin des wombats, particulièrement développés, ces intestins divisés en quatre régions différentes, permettaient la formation, dès le début de la digestion, et non pas seulement à la fin, si vous voulez des détails, de fesses de forme cubique. Reste à comprendre à quoi ça sert. Alors là, il y a plusieurs pistes. Les scientifiques ont d'abord découvert que ces marsupiaux trognons, les wombats, on l'a vu très peu développés et qu'ils communiquent entre eux principalement par l'odorat avec leurs excréments. Bah oui, ils défèquent à certains endroits pour marquer leur territoire, mais aussi pour exprimer un danger potentiel. Ouh là là, ça sent pas bon là, faut pas y aller. Et donc une des hypothèses serait que des excréments de forme cubique auraient moins tendance à rouler que des boules de caca et donc éviteraient au message excrémentiel de se perdre. Une recherche qui, si elle ne donne pas lieu à un prix Ig Nobel de science improbable, pourrait inspirer des applications nombreuses dans des domaines aussi variés que la santé ou l'industrie, oui, pour fabriquer des cubes à partir des contractions rythmiques d'un tube souple, en l'occurrence les intestins souples et rigides à la fois des wombats. Petite photo à découvrir juste pour le plaisir sur notre page. Et voilà comment la science peut infuser et diffuser à partir des questions les plus improbables et les plus insensées, n'est-ce pas, Cécile Lestienne ?
C'est absolument merveilleux comme histoire. Voilà, moi, j'avoue que personnellement, je suis fascinée par les rataupes nus que connaissent peut-être nos auditeurs africains.
Ils sont moins mignons que les wombats.
Qui sont absolument horribles, mais qui sont fascinants parce qu'ils vivent en société. Mais là, mon cœur balance. Peut-être que je vais me retourner vers les wombats.
Bon, en tout cas, vous, dans Cerveau et Psycho de ce mois de février, vous vous êtes intéressé entre autres aux moutons, ou plus exactement à l'esprit moutonnier, qui, bien utilisé, pourrait avoir certains avantages. À découvrir juste après Gotenner, juste pour inverser sa proposition, un mouton, c'est bête, sur RFI.
Un mouton, c'est un mouton, c'est bêta, c'est bébête, c'est ballot.
un mouton, deux moutons, c'est bébête. Richard Gottener sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Pas si sûr finalement qu'un mouton ça soit si bête que ça. Cécile Lestienne dans Cerveau et Psycho, le professeur de psychologie Yves-Alexandre Talman dans sa chronique À l'envers du développement personnel démontre que l'esprit moutonnier ça pourrait bien nous être utile précisément en temps de pandémie.
Absolument. En fait, on se targue rarement d'avoir l'esprit boutonnier. On se targue plutôt d'avoir la dépendance d'esprit. Mais peut-être que nous nous leurrons sur nos propres motivations. Et donc, effectivement, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cet article et plus largement du nudge. Voilà, le nudge. Voilà, ces techniques, vous avez issues des sciences du comportement qui visent à influencer et la motivation et les prises des décisions des individus ou des groupes. Pour faire comprendre l'exemple archétypique du nudge, voilà, c'est à l'aéroport de Stockholm, si je me souviens bien. Ils étaient en butte à des comportements un petit peu je m'en foutiste, si je peux me permettre, de certains messieurs dans les aéroports, dans les toilettes de l'aéroport. Et voilà. Et au lieu d'écrire des messages du genre gardez l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé, X euros d'amende si vous en mettez partout, ils ont juste dessiné des petites mouches juste au centre des urinoirs. Eh bien, devinez quoi ? À ce moment-là, les messieurs se sont mis à viser droit et ça s'est beaucoup arrangé les problèmes des toilettes de l'aéroport de Stockholm. Voilà.
Et donc, voilà comment marche le nudge, en fait, avec des images très précises.
Et bien, c'est des suggestions indirectes. Voilà.
Donc, c'est ça.
Le problème avec le nudge, c'est que ça peut être très efficace, mais ça... La frontière avec la manipulation est toujours assez floue, donc il faut faire effectivement attention aux motifs de ces techniques de nudge.
À ces suggestions, enfin, quelles suggestions indirectes on vous fait passer ?
Pour quel objectif ?
Et c'est ça. Hein.
Voilà. Mais justement, en ces temps de pandémie où beaucoup de messages circulent, voilà, où nous avons un gros défi effectivement à relever, je trouvais intéressant de revenir sur ce que peuvent nous apprendre les sciences expérimentales sur la réalité de nos propres comportements. Et effectivement, dans le numéro de février de Cerveau et Psycho, le psychologue suisse Yves-Alexandre Talman pointe le fait qu'il y a un hiatus, si vous voulez, entre les motifs que nous exprimons lorsqu'on nous demande le pourquoi de nos comportements éthiques et responsables et tout ce que vous voulez, et les motifs qui sont révélés par nos propres actes. Et voilà. Et
en gros, ce pourquoi vraiment on agit finalement.
Exactement. Et en fait, souvent. On peut le dire, la noblesse des sentiments est moins efficace et moins réelle que l'esprit moutonnier, effectivement.
C'est-à-dire qu'en fait, on fait un peu ce que font les autres et on se targue de grands principes pour défendre notre
Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous fait agir. Et donc, à l'appui de ces dires, Alexandre Terman cite plusieurs études, donc, dont une étude américaine qui avait été, je le précise, réalisée avant l'épidémie, en 2008, je pense, à New York. Voilà. Et c'était pour voir si le personnel soignant dans les hôpitaux se lavait et se désinfectait bien les mains. Et ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas, ce qu'on sait d'ailleurs. Hein. Et, voilà. Et donc, ils avaient mis des caméras de surveillance à l'entrée des unités de soins intensifs. Voilà. C'était pas une caméra cachée, hein. Tout le monde savait qu'il y avait la caméra. Donc voilà. N'empêche que, même en sachant qu'il y avait la caméra, ils ont compté qu'il y avait à peu près une personne sur 10 dans le personnel médical qui se désinfectait vraiment les mains.
Seulement.
En 2008. Voilà. Donc, pour essayer d'améliorer les choses, ils n'ont pas ni donné des sanctions, ni donné des carottes. Ils ont juste implémenté, installé un compteur qui s'incrémentait à chaque fois que quelqu'un se désinfectait les mains. Voilà. Et là, donc les gens avaient un retour en direct de ce qu'ils avaient fait et aussi des performances de l'équipe. Et là, hop, c'est passé à 90% du personnel médical qui s'est
lavé les mains. Donc en fait, on veut faire comme les autres ou aussi bien que les autres ou mieux que les autres. Et finalement, c'est un peu ça qui nous motive.
Oui, oui, mais surtout comme les autres.
Surtout comme les autres. Hein.
Voilà. D'ailleurs, d'où la citation d'une autre étude américaine aussi, menée par le professeur Robert Cialdini, en Californie. Et là, cela visait, toujours dans cette optique un peu nudge, de pousser les Californiens à économiser l'énergie. Donc, dans une première étape de l'expérience, ils avaient interrogé un nombre de foyers californiens pour savoir pourquoi ils économisaient ou ils économiseraient l'énergie. Voilà. Et donc, les gens, dans l'ordre, ont invoqué justement comme motif la sauvegarde de l'environnement, en premier, puis parce que c'est bon pour la société, puis parce que ça permet de faire des économies, puis parce que beaucoup de gens le font. Voilà. Et donc, dans une deuxième étape de l'expérience, ils ont fait des tracts, ils ont accroché aux portes des maisons qui reprenaient les 10 arguments. Du genre, protéger l'environnement en économisant l'énergie, ça c'est pour la première chose. Prenez vos responsabilités en économisant l'énergie pour les générations futures. Ou économisez de l'argent en économisant l'énergie. Ou faites comme vos voisins et économisez l'énergie. Je vous donne un mille. Quel est le message le plus efficace ?
C'est
le
dernier. Faites comme vos voisins.
Faites comme vos voisins. Donc, voilà. Donc d'où l'importance. Vous voyez les raisons nobles qu'on se donne ou qu'on. Probablement sans se rendre compte que ce n'est pas si vrai que ça, voilà, sont moins efficaces que notre besoin d'être comme les autres, comme en tout cas comme nos proches, comme nos voisins.
Donc voilà. Et donc l'idée... il faut insister sur cette corde sensible là, en tout cas en être conscient.
Absolument, voilà. Et peut-être que les messages que l'on entend aujourd'hui, qui sont tout à fait légitimes, de faites attention pour protéger, notamment pour protéger les autres, pour protéger soi, peut-être marchent moins que si on disait faites attention parce que vos voisins le font.
Faites attention parce que vos voisins le font, ça fait aussi un peu penser à un certain mimétisme, théorie mimétique d'un René Girard, qu'on veut toujours ce que l'autre désire ou on veut faire comme l'autre. Et vous avez envie d'aller encore plus loin, Cécile Estienne, en vous arrêtant sur un article, cette fois qui n'est pas paru dans le numéro de février, mais qui est apparaître sur...
Dans le numéro de mars et qui est déjà sur notre site internet, donc les auditeurs peuvent le trouver.
Sur nos hésitations.
Sur l'hésitation vaccinale, et voilà, la problématique se pose un petit peu de la même façon. C'est un article du professeur Grégoire Borst, qui est prof de psychologie et de neurosciences à l'Université de Paris. Il dirige le laboratoire Lapsidé, l'ancien laboratoire d'Olivier Houdet. Ils ont fait toute une étude sur l'hésitation vaccinale, ce qui est évidemment un problème aujourd'hui. Face à la pandémie qui nous est tombée dessus, le vaccin semble quand même une solution. Pour un individu comme vous et moi, pourquoi se faire vacciner ? C'est normalement le fruit d'une réflexion où on évalue le rapport coût-bénéfice, le coût avec peut-être d'éventuels effets secondaires,
Mais on et se les dit bénéfices que collectivement,
pour soi, pour les autres, ça peut être important, et notamment pour ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, et donc Et donc, on s'aperçoit que cette réflexion qu'on pourrait croire absolument rationnelle et objective est totalement biaisée pour la plupart d'entre nous, par des biais cognitifs dont nous n'avons pas toujours conscience. Par exemple, le biais d'omission. Le biais d'omission, c'est le fait que si je fais couler de l'eau par terre, que vous passez ou que vous vous cassez la figure, Caroline, je vais beaucoup plus culpabiliser que si j'ai juste vu qu'il y avait de l'eau par terre et que vous êtes tombée en passant. Parce que j'aurais agi, c'est moi qui aurais fait couler l'eau. Et donc, c'est un petit peu pareil avec le vaccin. Ça nous pousserait, en tout cas certains d'entre nous, à surévaluer les risques d'effets secondaires pour nous ou pour nos enfants ou pour nos vieux parents. S'il y avait des effets secondaires, est-ce que ça serait pas plus grave parce que j'aurais agi, en minimisant du coup les risques du virus lui-même qui sont bien plus grands. Et ils ont du coup essayé une autre, ils ont fait une expérience pour mesurer une autre façon de voir comment réagissaient les gens hésitant devant le vaccin. Et ils ont essayé la technique de l'anticipation du regret. Le regret, c'est désagréable, n'est-ce pas ? Donc, on a posé aux gens la question, qu'est-ce que vous penseriez si vous tombiez malade dans quelques semaines alors que vous auriez pu vous vacciner ?
Ça peut être des bons leviers.
C'est un argument qui marche très bien, et qui, effectivement, pousse les gens à évaluer les choses un petit peu autrement. Ce qui est intéressant, c'est que l'anticipation du regret pour les autres ne marche pas du tout.
Regrets pour soi-même.
C'est des regrets pour soi-même. Mais les regrets pour les autres, le fait de ne pas s'être vacciné et que le risque pour les autres ne marche pas.
Donc là encore, nos grands principes, il faut peut-être les revoir. Peut-être réfléchir bien à qu'est-ce qui nous pousse vraiment à agir, notre responsabilité. Donc penser à nos regrets pour nous-mêmes. Et puis libérer les moutons qui sont en vous. Ça, c'est à lire dans Cerveau et Psycho de ce mois de février. Et sur votre site, donc dans le numéro de mars, vaccin, comment surmonter surmonter l'hésitation. Merci Cécile Estienne et merci pour tous ces exemplaires de cerveau et psycho que vous avez amenés avec vous. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, qu'ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. À suivre autour de la question « Comment la science infuse sur les traces des dinosaures ?» C'est Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie qui nous dira tout sur l'incroyable famille des dinosaures qui a dominé le monde pendant près de 150 millions d'années et survécu à 3 crises malheureuses. Ça fait rêver ou pas ? Walking on your footsteps, sur les pas des dinosaures avec Police sur RFI. 50 million years ago, you walked upon the planet sun. Thought of all that you could see, just a little bit like me. Walking in your footsteps. Walking in your footsteps. Walking in your footsteps. Walking in your footsteps. Hey, Mr. Dinosaur, you really couldn't ask for more. You're God's favorite creature, but you didn't have a future. Des dinosaures avec Police autour de la question comment la science infuse et se diffuse sur RFI avec vous, cher Thomas Cavalier-Foll. Bonjour.
Bonjour Caroline, ravi d'être avec vous.
Ravi moi aussi de vous avoir en ligne, c'est bien mieux que rien, c'est le grand dossier. En tout cas, il a une de Science et Vie de ce mois de février, les dinosaures, maîtres incontestés de la Terre pendant plus de 150 millions d'années, dis donc. Une super famille au succès inégalé qui a survécu et prospéré sur 3 crises majeures. Alors, on ne parlera pas de la dernière, l'astéroïde géant de Chicxulub qui leur a été fatal. Mais on va s'arrêter avec vous Thomas sur les milliers d'espèces de dinosaures qui ont prospéré sur Terre grâce d'abord à une grosse crise volcanique, c'est ça qui sur toute la Pangée.
Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui est assez étonnant avec les dinosaures, c'est qu'on connaît la fin, on connaît effectivement cette dernière crise, mais ce qu'on sait moins, c'est que les paléontologues découvre aujourd'hui, c'est que leur origine a été dans le même chaos. Elle s'était dans des super crises écologiques, dont vous venez de le dire, une crise volcanique qui a eu lieu il y a 252 millions d'années, qui est tout simplement la plus grosse crise écologique jamais enregistrée sur Terre. On appelle ça la Grande Mort. Et à cette époque-là, en fait, il y a 90% des espèces marines et plus de 70% des vertébrés terrestres qui disparaissent. Et juste après cette crise terrible, là, qui est donc provoquée par un volcanisme assez incroyable, il y a le taux de CO2 qui augmente, qui est multiplié par 5 en 40 000 ans à peine, c'est assez effroyable. En fait, apparaît justement les ancêtres des dinosaures et dont l'évolution va finir par donner le dinosaure. Bon, bien sûr, le dinosaure, il apparaît pas comme ça, et on sait à peu près à quoi il ressemblait à cette époque-là, le tout premier dinosaure.
Ouais, à quoi il ressemblait?
Celui dont on pensait. Ben voilà, en fait, on imagine, les chercheurs imaginent qu'il devait faire pas plus d'un mètre de longueur, donc ça fait peut-être 50 cm de haut. Il était bipède. Oui, c'était une toute petite bestiole encore. Il était bipède, ça c'est assez important, parce que c'est une des caractéristiques les plus importants des dinosaures, même si plein de dinosaures sont ensuite revenus à marcher à quatre pattes, comme les diplodocus par exemple. Et il était probablement très rapide et assez intelligent. Et en fait, voilà, donc nous, à Sciences et Vie, on a voulu revenir sur cet instant charnier qui était l'évolution du dinosaure. Et pourquoi et comment il, cette famille, comme vous l'avez dit, au succès inégalé, est arrivée sur la Terre.
Parce que c'est absolument fascinant. Là-dedans, on voit effectivement toutes les espèces de dinosaures très différents les uns des autres. On rappelle quand même que c'est les ancêtres des oiseaux, donc cette bipédie, elle est importante. Hein. Et puis, à chaque fois, finalement, avec d'autres crises, il y a eu ensuite le déluge, je ne sais pas si c'est le déluge biblique, mais en tout cas, ils ont ensuite survécu effectivement au déluge. Et ça les a... Enfin, ils se sont... du coup, ils ont évolué de manière différente, mais ils sont restés sur Terre pendant plus de 150 millions d'années. C'est incroyable, hein ?
Ouais, c'est assez fascinant, vous le dites. À chaque crise, en fait, on a eu l'impression qu'il y a eu une étape dans l'essor du dinosaure. Mmh. Donc, 252 millions d'années, juste après, c'est leur apparition. Il y a 232 millions d'années, là, c'est l'épisode du Carnien. Donc, c'est, comme vous le dites, un déluge. Pendant 2 millions d'années, il pleut. C'est assez extraordinaire.
Il pleut pendant 2 millions d'années, oui, je vous ai bien entendu, oui.
C'est ça. Et là, le dinosaure, enfin, les grandes familles différentes de dinosaures, qui sont donc les ornithischiens, c'est les dinosaures qu'on dit souvent à bec de canard, comme le triceratops, par exemple, d'un côté, et ensuite les saurischiens de l'autre, qui eux comprennent les sauropodomorphes, c'est les diplodocus, on va dire, et les théropodes, c'est celui qui va donner le tyrannosaure et la branche qui mènera aux oiseaux, apparaissent juste après ce déluge-là. Donc en fait, il y a un changement là, probablement écologique, qui leur permet de se diversifier. Et aussi, n'oublions pas, bien sûr, que à chaque crise écologique, il y a des espèces qui disparaissent.
Bien sûr, bien sûr.
Et d'autres qui prennent leur place, qui remplissent les niches qui ont été laissées vacantes. Et en fait, le dinosaure apparaît comme ça. Et la troisième crise, c'est il y a 200 millions d'années. C'est l'éclatement de la Pangée. C'est cet immense continent qui va devenir, en fait, à ce moment-là, il commence à devenir les continents que l'on connaît. Il y a une énorme faille qui se provoque et les continents se séparent. Et là, les principaux rivaux des dinosaures, qu'on appelle les pseudosuchiens, c'était eux qui dominaient un peu la planète à cette époque-là. Il y en avait de toutes sortes. C'est les ancêtres des crocodiles. On n'a plus que généralement les crocodiles qui sont là, ils étaient énormes, ils pouvaient faire la taille d'un bus, ils étaient de tous les régimes alimentaires, et eux, ils disparaissent.
Au moment de la fracture de la Pangée.
Mm-hmm. Exactement, et le dinosaure, du coup, a un peu le champ libre, et il se met à recouvrir, enfin, en tout cas sur les espèces terrestres, c'est lui qui va dominer complètement jusqu'à ce malheureux astéroïde qui arrive il y a 66 millions d'années. Mais donc, c'est vraiment une famille au pouvoir... étonnant et qui a bénéficié de petites adaptations qui ont en fait qui l'ont favorisé par rapport à d'autres familles. Par exemple, la bipédie, on en a parlé, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Au début, les dinosaures, ils possédaient ce qu'on appelle une posture affalée.
Qu'est-ce que c'est qu'une posture affalée? C'est sur un canapé? C'est sur des canapés, les dinosaures?
C'est pas vraiment ça, en fait. C'est, vous savez, les lézards ou les crocodiles, aujourd'hui, on a l'impression que leurs membres se déploient sur le côté du corps.
Oui.
Alors qu'en fait, si vous regardez une poule, qui est un dinosaure, hein, n'oublions pas que la poule est un dinosaure, eh bien, ses jambes sont, comme les nôtres, placées sous le corps. Mmh. Et donc, ça permet la bipédie, cette posture-là, mais aussi, apparemment, ça donne un gain d'endurance, parce que la posture affalée ne permet pas de respirer et de courir en même temps, ce qui est quand même complètement hallucinant, mais c'est le cas. Donc, en fait, le dinosaure, il a eu cette petite adaptation-là qui marche bien aussi. Les ancêtres des dinosaures, eux, ils ont commencé par... rapetissés. Ils sont devenus plus petits, en fait. Leur taille a été divisée par deux juste après la première crise. C'est la découverte d'un fossile, c'est très récent qu'on a découvert ça. Il s'appelle Congonafonkeli. C'est un ancêtre des dinosaures et sa petite taille a montré que les ancêtres des dinosaures, ils avaient été rapetissés probablement pour dominer de nouvelles niches écologiques. Ils sont devenus probablement insectivores, pensent les chercheurs. Et donc, en fait, ils sont d'abord fait tout petits. Ils ont eu plein de petites adaptations qui ont fait, en fait, leur succès.
Et oui, comment ils ont réussi finalement à s'adapter pendant 150 millions d'années? Qui dit mieux, les dinosaures, comment ils ont conquis le monde? C'est la une et le dossier très complet, génial, vraiment, de Science et Vie. Thomas Cavaillé-Foll, qu'on veut soutenir, hein, en plus, Science et Vie, soutenir dans le bon sens. Hein. On vous rappelle qu'on est de tout cœur avec vous, les journalistes scientifiques de ce magazine historique qui ne devrait pas perdre son âme, justement. Alors, histoire de se faire du bien, vous voulez aussi nous entraîner dans la nature, c'est ça, Thomas Cavaillé-Foll? Comment la nature nous fait du bien?
Effectivement, en cette période de confinement, on a tous senti qu'on avait un petit besoin de verdure de temps en temps. Et donc, nous, on a voulu revenir sur ce sujet-là parce que ça paraît très important, en fait, d'être en contact avec la nature. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau. On sait vraiment que la nature nous fait du bien. Par exemple, une étude en 2017 a révélé qu'une différence de 8 à 12% des risques de mortalité, toutes causes confondues, entre des populations qui avaient plus ou moins accès à la nature. Donc, il y a vraiment un effet qui est effectif, si je peux me permettre. Et plus étonnant encore, on n'a même pas besoin de s'immerger dans la nature pour profiter de ces effets bénéfiques. Il paraît seulement une fenêtre ou même un écran d'ordinateur avec un paysage dessus
commence à nous faire du bien. Voir un vrai arbre ou un oiseau ou un brin d'herbe, en vrai, ça fait du bien aussi, hein, quand même, en vrai.
Ah ben, moi, je préférerais, bien sûr. Mais bon, déjà, rien que le voir en pas vrai, ça a un effet. Donc, on s'est posé la question, parce que c'est encore très discuté, pourquoi la nature nous fait du bien comme ça. On s'est posé la question. Il y a trois pistes majeures, en fait. Hein. C'est une capacité un peu innée liée à notre évolution, bien sûr. L'humain a toujours été dans la nature pendant des centaines de milliers d'années, donc forcément, ce n'est pas tant le fait d'y être qui nous ferait du bien, mais plutôt le fait de ne pas être dans la nature qui nous ferait du mal. Il y a aussi une autre hypothèse qui serait que la nature, en fait, attire notre attention. Parce que la nature, c'est beau, parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à entendre, il y a plein de choses à imaginer, et donc on ne pense plus à ses soucis personnels.
Ça, c'est pas faux. Notre attention est en se promenant, attirée. C'est clair.
Oui, oui, oui. Et puis la troisième, c'est que c'est socialement inculqué, c'est qu'on apprend à profiter de la nature en allant au parc, en faisant des balades. C'est quelque chose de très social.
C'est dans notre nature, hein, finalement. Comment et pourquoi la nature nous fait du bien. Merci Thomas Cavaillé-Foll. C'est à lire dans Science et Vie, dont le gros dossier, hein, je le rappelle, est consacré aux dinosaures et dont nous avons, je vous le rappelle, quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, merci Thomas de nous les faire parvenir, hein, ces magazines, on compte sur vous.
Avec plaisir, oui.
On vous dit au mois prochain, Thomas, peut-être en vrai, en présentiel, autour de la question comment la science infuse depuis les laboratoires, à travers vos rédactions et jusque sur les antennes de RFI. On va s'intéresser maintenant à notre instinct parental avec Philippe Pageot de la recherche qui s'est intéressé aux réseaux neuronaux de la parentalité, de l'altruisme et de l'empathie. Tout un programme à partager en musique d'abord avec Oriane sur RFI, l'instinct paternel.
Si fort, parce qu'il est fragile. Voilà que je commence par une nuance. Non pas que je l'aime, que sur un fil. Je l'aime donc, je l'écris avec prudence. J'ai chopé 2-3 trucs de lui. Mais comme j'aimerais sa consistance, le raisonner de ses sa vie, savoir feinter la bonne distance. Puisqu'il est l'ouragan tranquille et ma caution d'humanité, et qu'il sera toujours une île où mes bateaux pourront échouer. Il a échoué un peu aussi, le héros est démystifié, mais y a pas un combat, c'est dit, qu'il n'a pas daigné affronter. Puisqu'il a l'instinct paternel, mais que je le crie pas sur toutes les pages, quand j'aurai le quart de ses épaules, quand j'aurai le quart de son courage, puisqu'il m'apprend à être forte, être une femme avec un grand âge. Quoique j'aime pas quand il s'oublie qu'il s'est vertu à réparer, construire des murs autour de nos vies pour éviter qu'on soit blessé. Souvent, j'ai peur un peu pour lui. Et puis, souvent, je ne m'en fais pas puisque je sais qu'il sera appui autant que ce que je serai toujours là pour écouter Orly de Brel, la femme bouffée par l'escalier. L'écouter parler de plus belle, de la cuillère, des abris. potier.
L'instinct paternel d'Oriane sur RFI. Autour de la question, comment la science infusée se diffuse ? Très contente de vous retrouver en ligne, Philippe Pageot, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Eh oui, ravi de vous retrouver à la recherche. On a plaisir à vous retrouver tous les trois mois désormais, puisque c'est Science et Avenir et la recherche, avec en ce mois de février, donc une enquête passionnante dans la recherche sur les réseaux neuronaux de la parentalité. Vous avez interrogé Philippe Pageot, Catherine Dulac, professeure en biologie moléculaire et en neurosciences de Harvard, une sommité qui mène depuis de nombreuses années une recherche passionnante sur l'instinct parental, comment les comportements altruistes qui ont émergé chez l'animal sont dus à des circuits neuronaux spécifiques à la parentalité développée, alors là c'est encore mieux, aussi bien chez le mâle que chez la femelle. En gros, c'est ça, Philippe.
Exactement, exactement. Alors, en fait, on n'a pas interrogé Catherine Dulac, c'est elle qui a écrit un article dans notre revue.
Bien sûr, c'est votre spécialité dans la recherche. Hein,
voilà,
bien sûr.
Elle a écrit un article et elle a raconté effectivement toute cette aventure qui est d'aboutir à cette découverte remarquable que les circuits neuronaux qui régissent les comportements parentaux spécifiques des mâles et des femelles, en fait, sont présents chez les deux sexes. On peut se dire qu'il y avait des neurones, des réseaux neuronaux qui contrôlaient l'instinct parental, mais de se dire que c'est chez les deux sexes, ça c'est une première découverte vraiment étonnante. Mm-hmm. Et par ailleurs, elle a également compris le fonctionnement de ces réseaux qui commandent le comportement parentaux dans une petite région du cerveau. En fait, elle a disséqué ce réseau, et pour ça, elle a eu le Breakthrough Prize 2020, qui est un très très gros prix, mieux doté encore que le prix Nobel. Puisque
ouais, le Breakthrough Prize, un grand prix scientifique.
Voilà, 3 millions de dollars, donc quand même pas mal. Donc c'était cette professeure à Harvard qui raconte dans notre magazine, effectivement, toute cette histoire.
Et qui est une vraie histoire, parce qu'au fond, c'est une grande question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que l'émergence de ce comportement donc altruiste, empathique chez les animaux et chez les humains, est-ce que ça vient justement de la manière dont on aime immédiatement, de cet instinct parental, dont les parents aiment leurs enfants? C'est vraiment une grande question qu'on se pose. Est-ce que c'est pas de là que vient tout le reste?
C'est une grande question qu'on se pose, effectivement. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, si je peux retourner un petit peu en arrière, c'est oui. que Catherine Dulac a pris effectivement un chemin assez long et détourné pour arriver là. C'est des études qui ont commencé dans les années 90 et qui ne parlaient pas au départ du tout d'instinct parental. Elle parlait elle étudiait l'organe voméronasal, qui est le deuxième système olfactif, celui qui est sensible aux phéromones. Je vous rappelle que les phéromones, c'est cette molécule qui change le comportement social d'un individu. Et c'est en étudiant effectivement ce système voméronasal qui est arrivé effectivement à découvrir qu'il y avait des gènes un peu particuliers, qu'il y avait une mosaïque de neurones différents qui étaient chacun sensibles à un type de phéromone, et donc comme je viens de vous le dire, la phéromone agit sur le comportement social, elle s'est dit, je vais essayer d'étudier, alors c'est la souris, ce qui se passerait si on enlevait en fait l'instinct, l'organe voméronasal pour connaître son rôle.
Alors soulignons aussi que cet organe voméronasal et ses phéromones, c'est quand même très lié à l'instinct sexuel, c'est ça qui attire souvent les partenaires.
Tout à fait, exactement. Et alors la découverte remarquable qu'elle a faite, c'est qu'un mâle sans organe voméronasal se comportait comme une femelle, et que des femelles sans organe voméronasal se comportaient comme des mâles. Ça, c'est quand même un truc complètement étonnant.
Absolument.
Et donc l'interprétation, c'est que le cerveau des mâles et des femelles ont tous les deux des circuits mixtes, celui du comportement mâle et celui du comportement femelle. Et il y a un truc, un élément, un déclencheur qui allume ou éteint tel ou tel comportement. Et c'est justement l'interprétation, c'est que c'est cet organe voméronasal.
Et donc qui allume ou qui éteint, ça devient un organe pour le rapprochement sexuel ou pour le rapprochement altruisme empathique avec les enfants. Ce qui est quand même étonnant, et vous le soulignez aussi dans cette, elle le souligne aussi dans cet article, Catherine Dulac, oui. la professeure, c'est que finalement chez nous, chez les humains, l'organe voméronasal n'existe plus.
Alors voilà, donc ça c'est une spécificité. L'organe voméronasal, le deuxième système olfactif, en fait, il a disparu chez les humains. Alors, d'un point de vue évolutif, c'est intéressant aussi parce qu'il est disparu en même temps que se développait la vision. Donc, en quelque sorte, on a gagné de la vision, on a perdu l'odorat.
Et on regarde plus nos, que ce soit nos amoureux ou nos enfants, on les regarde plus qu'on ne les sent. Hein.
Voilà,
on
voilà.
peut le dire comme ça.
Mais ça ne veut pas dire que, évidemment, l'olfaction n'a pas, pas un rôle
aussi voilà. plus caché.
Alors, voilà. Alors après, le truc intéressant, c'est qu'elle allait plus loin que ça, c'est que en plus de cet organe-là, elle a trouvé une population neuronale dans une zone du cerveau qui commande les comportements parentaux. Donc ça, c'est là, elle était encore plus loin. C'est une petite zone, c'est la zone préoptique de l'hypothalamus, donc une zone qui est présente chez les deux sexes. Et il y a une sorte de ce qui est une sorte de bouton de commande qui peut changer le comportement. Donc là encore, lorsque ces neurones sont allumés, tout animal, y compris un mâle souris qui serait infanticidaire, par exemple, va s'occuper de nouveau-né. Et à l'inverse, quand il est éteint, évidemment.
Oui, il s'en occupe plus du tout, il peut même les tuer, hein, c'est ça.
Voilà, et même une mère devant ses nouveau-nés ne va plus s'occuper d'eux. Donc c'est quand même vraiment.
On est donc vraiment régi par nos réseaux neuronaux, alors des souris jusqu'aux hommes, les réseaux neuronaux de la parentalité. Article passionnant, hein, signé donc professeur Catherine Dulac de Harvard qui vient de recevoir le Breakthrough Prize. Article passionnant à lire dans ce numéro de La Recherche qui paraît donc en février. Science et Avenir, La Recherche. Merci beaucoup. Philippe Pajot, on vous dit à bientôt à la rédaction de La Recherche.
Avec plaisir,
dont je vous le rappelle, chers amis auditeurs, nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. À bientôt Philippe Pajot. Avis maintenant aux fans d'astronomie. Vous êtes nombreux à regarder, à écouter notre chronique aussi Ciel d'Afrique sur RFI. Cette fois-ci, c'est sur la Lune qu'on vous emmène maintenant avec l'autre Philippe Hénarejos de Ciel et Espace que l'on retrouve en studio juste après ce très joli morceau de la nouvelle diva malienne Djeli Tapa, départ pour Lune, embarquement immédiat sur RFI. Départ pour Lune avec la nouvelle grande voix du Mali qu'on aime déjà, qu'on adore. Djeli Tapa sur RFI, spéciale dédicace pour vous, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous en studio. Autour de la question comment la science infuse, alors elle met parfois des années à infuser. Oui. Vous rouvrez le dossier d'Apollo 14 dans Ciel et Espace, il y a tout juste 50 ans. Cette exploration lunaire qui n'a pas très bien fini pour ses protagonistes, on va dire. Enfin, les astronautes Shepard et Mitchell, c'était les premiers à à s'aventurer sur le sol lunaire aussi loin en quête d'échantillons. Et on leur a reproché quoi ? D'avoir été un peu léger, d'avoir préféré jouer au golf plutôt que vraiment travailler sur la Lune. Bon, c'est pas tout à fait exact.
C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai réouvert ce dossier que j'ai surtitré Cold Case, c'est le cas, hein, c'est comme ça, vous voyez, c'est la série. C'est-à-dire que depuis toutes ces années, j'entends dire sur les sujets concernant la géologie lunaire, l'exploration lunaire, qui est un domaine que j'ai moi-même pas mal exploré, que Shepard et Mitchell, qui étaient chargés de mener la première grande exploration géologique de la Lune, il y a Armstrong et Aldrin, ils ont juste appris à marcher, ils ne sont pas restés très loin, ils sont pas allés très loin du LEM. Apollo 12, ils sont un peu aventurés un peu plus loin, mais c'était encore une mission presque technologique. On ne faisait pas encore de la science. Et là, Apollo 14 avait l'ambition de recueillir des données géologiques. Et pour ça, il fallait que les astronautes aillent à 1,5 km environ de leur module lors de leur deuxième sortie en scaphandre, qu'ils récoltent des échantillons d'une certaine manière, avec une méthode scientifique, etc. Et effectivement, on leur a reproché de ne pas avoir suivi cette méthode-là, d'avoir été désinvolte. Et ça tenait aussi à la personnalité de ces deux gars-là. Alan Shepard, c'était un héros national, il faut savoir. En 1961, c'est le premier astronaute américain à s'aventurer dans l'espace, juste après Yuri Gagarin, un mois après. Il a fait un saut de puce. Il est resté 15 minutes, donc c'est quand même une figure à l'époque. Mais Shepard, la géologie, c'est pas sa tasse de thé. Et franchement, quand ils sont dans les séances d'entraînement sur le terrain et tout ça, avec Mitchell, ils sont littéralement au fond de la classe en train de faire des blagues, ça les intéresse pas trop. Mais
bon, ramasser des roches sur la Lune. Voilà, c'est des astronautes, mais c'est voilà, pas des géologues.
Lui, il voulait piloter, aller plus loin, plus haut, plus vite, etc. Malgré tout, Shepard et Mitchell sont des gars intelligents. Et le peu qu'ils ont écouté en classe, en gros, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Et je me suis demandé si vraiment la collecte géologique et scientifique qu'ils avaient faite sur la Lune était si mauvaise que ça. Et il y a quelques années, j'ai déjà étudié cette mission pour les besoins d'un livre que j'ai écrit. Et je m'étais rendu compte que ça ne cadrait pas avec ce qu'on décrivait. Je trouvais que sur la Lune, ils faisaient le job, en fait.
Ils avaient beaucoup travaillé, ils avaient vécu un truc, vous le racontez.
Voilà. Vous voyez, j'ai regardé toutes les vidéos, les audios, les transcriptions, et ce qui transpire de ça, c'est pas deux gars désinvoltes qui font mal le job. Au contraire, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir deux types qui étaient là, qui voulaient absolument bien réussir tout ce que les scientifiques leur ont demandé, et qui, finalement, ont été un peu laissés à abandonner à eux-mêmes dans cette première exploration.
Parce que c'était insensé et impossible à faire. Ils ont dû marcher sur la Lune dans des combinaisons. Enfin, c'était infaisable ce qu'on leur demandait.
En fait, ce qui s'est passé, cette mission Apollo 14, elle est vraiment passionnante parce que c'est là où, je pense, on a appris énormément sur la manière d'explorer un autre monde. Et on apprend comment, souvent, en faisant des erreurs. Et les erreurs, c'est pas forcément ce que je trouve là. C'est pour ça que je réhabilite en quelque sorte ces deux astronautes. C'est que la faute ne leur incombe pas entièrement. Bien sûr, ils auraient été meilleurs élèves en géologie, ils auraient peut-être fait de meilleurs choix, mais ils n'ont pas fait aussi mauvais choix que ça. Ils ont même été plutôt bons. Par contre, les scientifiques aussi ont découvert.
À quel point c'était compliqué.
Voilà, tout le monde ignorait. Ils n'ont pas forcément bien réagi, ils ne les ont pas bien,
bien guidés.
Parce que sur la Lune, ça n'échappera à personne, on a une réserve d'oxygène, on a un temps limité, on a un équipement qui est compliqué, on a un terrain qu'on ne connaît pas. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Ils avaient des cartes photographiques de la zone et ça ne montrait pas que le terrain était ondulé, qu'on ne voyait pas les repères, ça ne montrait pas que ça montait, que c'était dur, ça ne montrait pas qu'il y avait des cailloux partout, ça ne montrait pas que les différences de terrain qui avaient été vu depuis l'orbite était invisible avec le soleil dans les yeux. Tout ça, ils ont essuyé les plâtres littéralement sur cette mission. Et les astronautes ont fait leur job, en fait.
Alors pour le savoir et pour le confirmer, c'est vraiment à lire votre enquête passionnante sur ce cold case d'Apollo 14 où on découvre un calvaire quand même qu'ils ont vécu, ces astronautes. C'est complètement insensé. J'aimerais bien, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission, qu'on s'arrête aussi sur une autre mission assez insensée, une mission sensible sensible, c'est-à-dire où il n'y a pas de cible, parce que quand on dit à la radio, on a l'impression que c'est de la sensibilité, pas du tout. C'est pour 2028, les Européens, les Japonais vont lancer une sonde vers nulle part, c'est ça. Comète intercepteur.
C'est parce que, vous voyez, il y a des objets célestes comme les comètes ou certains astéroïdes, mais plutôt des comètes, qui arrivent sans crier gare. Et on s'aperçoit toujours que, à part les télescopes depuis la Terre, on n'a pas grand-chose pour les observer. Et souvent, c'est un peu trop loin, donc on ne peut pas trop les comprendre. Et surtout, si ces astres viennent, comme par exemple la comète Albop, dont on se souvient peut-être à la fin du XXe siècle, qui était formidable, que tout le monde a vu, si on avait eu un engin spatial pour s'en approcher et faire des mesures très proches, on aurait appris beaucoup en science. Donc l'idée, c'est d'envoyer une sonde prête pour observer une comète ou un
astéroïde qui passerait par là,
qui se mettrait en orbite sur un endroit, c'est un point de Lagrange qu'on appelle Lagrange L2. En gros, c'est pas très loin de l'orbite de la Terre, mais si jamais il faut partir de là, il y a pas énormément d'impulsion à donner avec le moteur. Donc, en gros, c'est un peu comme un gardien de but qui est sur ses appuis et qui est prêt à bondir vers la comète, qui serait le ballon, pour essayer de l'attraper au passage.
Donc ça s'appelle Comète Interceptor. C'est prévu pour 2028.
Et elle ça peut attendre trois ans comme ça, sans rien faire, qu'un objet passe. Voilà.
Qu'un objet passe, et justement, il y a un objet qui est passé, très mystérieux. Et il y a un livre qui sort en ce moment en France, qui est un peu quand même, on peut en parler, même si on peut en toucher deux mots. C'est, disons que le chercheur qui a vu cet objet, il dit, ça y est, c'est la preuve que des extraterrestres veulent communiquer avec nous. Bon.
Voilà, ça va un peu loin.
Disons ça que va un peu
l'objet
loin,
dont on parle, c'est Oumuamua, qui est le premier astéroïde interstellaire, c'est-à-dire qu'il vient d'un autre système que le système solaire. Il a été vu en 2017. Il a été vu pratiquement au moment où il repartait. Donc, on a très peu d'observations. On l'a observé avec des télescopes.
Et il a vraiment... c'est très étonnant. C'est un objet de forme très longue. Donc
a priori, de forme très longue.
C'est même pas sûr.
C'est une déduction à partir de sa courbe de lumière. Donc, il y a beaucoup de... d'observations qui sont quand même fragmentaires. Si on avait eu un comète interceptor prêt à ce moment-là,
on aurait pu le
diligenter vers. Et alors, donc, pour faire allusion, pour dire ce à quoi vous faites allusion, c'est Avi Loeb, qui est astrophysicien à Harvard, qui sort un livre qui s'appelle Extraterrestre et qui est aussi impliqué dans Breakthrough Starshot, qui est une entreprise qui vise à faire une voile solaire pour aller explorer Proxima du Centaure, qui est la première étoile la plus proche. Et donc, lui défend la thèse dans son livre. Je l'ai reçu, je ne l'ai pas lu encore. Mais il défend la thèse dans son livre que Oumuamua, ce fameux astéroïde, n'est pas naturel, mais c'est en gros un vaisseau spatial. Ça rappelle, vous savez, c'est le roman de 1973 de Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Grandma. On rêve tous que ça soit le cas. Mais dans sa promo, et il a le droit de faire la promo de son livre, Avi Loeb va très très loin. Il dit non seulement c'est la seule hypothèse possible, toutes les autres sont à écarter, ce qui est loin d'être le cas. Et en plus, il y a une intention derrière. Hier, et je vous dis laquelle. Donc là, ça va très très loin. Venant d'un scientifique, il ne peut pas ignorer la méthode scientifique. Donc,
c'est pas une méthode scientifique. Il va beaucoup trop loin. Si on veut lire ça comme un roman de science-fiction, on peut. Mais ça n'est qu'un roman de science-fiction.
Exactement.
Alors, pour rester vraiment dans la science, je renvoie sur Ciel et Espace,
eh oui,
dans lesquels on n'en rajoute pas. On vous reparlera sûrement. Toute cette histoire d'extraterrestres, tout est possible, mais il y a
lundi,
des élucubrations et il y en a qui n'en sont pas.
On a fait lundi une émission avec des spécialistes, justement, spécialistes, des gars qui ont cherché là-dessus pour nous dire ce qu'il en est exactement. On a fait ça sur YouTube et c'est visible sur
Twitch. On vous renvoie là-dessus, sur YouTube, sur notre chaîne aussi pour Ciel d'Afrique, bien sûr. Chers amis auditeurs libres et curieux, on vous donne rendez-vous bientôt la semaine prochaine. C'est Chantal Leroux qui sera à ce micro. Merci à Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Allez, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. On se souvient de la différence entre science et science-fiction. Les infos, c'est bientôt sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.